Vous êtes à l'antenne de CKRL 89.1. Raymond Poirier avec vous ce matin. Et on se lance donc vers 1h30 de réflexion en route vers les élections municipales qui auront lieu au Québec, on le rappelle, le 1er novembre prochain. Et bien, dans la grande région de la capitale nationale, plusieurs dossiers, plusieurs enjeux qui méritent d'être réfléchis, qui méritent d'être regardés plus attentivement et auxquels on va s'intéresser au fil de la semaine. Question de se lancer vers cette campagne électorale-là avec peut-être déjà une tête, peut-être déjà quelques éléments auxquels on va vouloir que les potentiels élus, que ce soit à la mairie, que ce soit au poste de conseiller municipaux, eh bien, auxquels ils puissent s'attarder et réfléchir et nous apporter des réponses conséquente peut-être avec la réalité de la ville de Québec. Alors ce matin, on va s'intéresser à la thématique de la planification urbaine et de l'environnement. Alors sous plusieurs facettes, notamment, on va parler de planification urbaine en bonne et due forme avec Marc Boutin qui est géographe, avec Jean-Yves Desgagnés qui est porte-parole du collectif des éco-citoyens. Alors on va s'intéresser tout particulièrement à la planification urbaine en première couronne et dans le centre-ville. En fin d'émission, on va parler de la question d'étalement urbain et d'environnement en compagnie de Mélanie Deslongchamps, qui est directrice générale de l'Association pour la protection de l'environnement au lac Saint-Charles. Mais pour cette première demi-heure, eh bien, on va se questionner sur les boisés urbains. Donc, deux angles. Premièrement, on va parler notamment de forêts urbaines, de leur impact, de leur intérêt dans la ville de Québec. Et en deuxième temps, on va également s'intéresser donc aux forêts urbaines. Mais dans l'axe de la protection, dans l'axe de la législation, qu'est-ce que la ville peut faire, devrait faire sur le dossier. On va en parler avec Joanne Elsner du Comité des arbres de Sainte-Foy-Syrie. Ah ben pour commencer, donc pour parler, pour dresser avec nous un portrait de la forêt urbaine, mais je suis en compagnie de notre chroniqueur science, Valérie Levé. Bonjour.
Bonjour Raymond, bonjour à tout le monde.
Alors Valérie, il faut dire en fait, quand on parle de forêt urbaine, ça semble un peu contradictoire. Donc forêt urbaine, ville et nature à la limite. Alors comment peut-il y avoir des forêts en ville alors peut-être petite définition pour démarrer. Donc, c'est quoi la forêt urbaine?
Oui, ben en fait, j'avais posé cette question-là déjà à quelqu'un qui s'occupait de la forêt urbaine à la ville de Montréal. Et la réponse qu'il m'avait donnée, tu montes au deuxième étage ou n'importe où tu peux voir finalement la ville de haut. Et ce que tu vois à tes pieds, ce que tu vois de vert à tes pieds, c'est la forêt urbaine. Donc, c'est une définition assez large. Et en fait, quand on regarde qu'est-ce qui est vert à nos pieds à ce moment-là, ça inclut bien sûr les parcs comme les plaines d'Abraham, le bois de Coulonges, mais ça inclut aussi, par exemple, les arbres alignés le long des rues. Donc, à Limoilou, ici, il y en a plein, des arbres alignés le long des rues, donc ça fait partie de la forêt urbaine. Bon, sur René Lévesque, devant le Parlement, ou en tout cas, il y a bien d'autres rues comme ça. Ça inclut aussi les arbres isolés sur les terrains privés. Donc, chaque arbre devant une maison, c'est un élément de la forêt urbaine. Et puis, il y a les arbres laissés à l'état un peu plus sauvage, comme sur les flancs de la falaise, là, au Cap Blanc, ou des endroits comme ça. Ensuite, la forêt urbaine, c'est comme la forêt naturelle. C'est pas juste des arbres à grand déploiement, c'est aussi des arbustes et des taillis. Donc là, il faut penser à tous les taillis qui sont le long de la voie ferrée, le long des petits ruisseaux. C'est plein de petits taillis, ces choses-là. Les terrains non bâtis, abandonnés, les terrains en friche, c'est pareil, ils poussent une multitude de petits buissons là-dessus. Les taillis sous les lignes électriques, Hydro-Québec est toujours un certain nombre d'années, vient couper. Si on coupe pas, là, ça pousse, ça foisonne là-dessous. Donc, toutes ces taches de verdure qu'il y a sur le territoire de la ville, finalement, c'est la forêt urbaine et toutes ont leur importance.
Et justement, c'est ce qui pourrait amener aussi certaines questions de se dire que les friches et les taillis ont la même importance que les grands arbres matures, par exemple.
Oui, effectivement. Généralement, on n'aime pas la monoculture. On trouve toujours que c'est un peu faible au point de vue de la biodiversité. Une forêt avec seulement des grands ormes ou des grands chênes, c'est un peu comme de la monoculture finalement. C'est assez pauvre au point de vue de la biodiversité. Alors, si on regarde bien comment que ça se passe, une forêt naturelle, il y a plusieurs strates. Il n'y a pas juste des grands arbres. Il y a la strate herbacée, donc avec les petits foin-foin qui se trouvent au niveau du sol, là, jusqu'à 1 mètre du sol à peu près. Ensuite, il y a la strate arbustive avec les buissons puis les arbustes. Et enfin, la strate des grands arbres. Et donc, dans une forêt avec seulement les grands arbres, c'est une forêt amputée, finalement. Il lui manque une partie. Et en termes de biodiversité, un taillis ou un bouquet de trembles, c'est aussi important qu'un orme mature. Un orme sur une pelouse nickel, au point de vue de la biodiversité, on s'entend que c'est pauvre, orme et gazon. Alors que dans un taillis qui est constitué d'un ensemble de, d'arbustes, que généralement on ne sait pas vraiment ce que c'est, là, des zones, des saunes, d'autres choses, des amélanchiers, en tout cas il y en a toute une quantité, ben c'est assez riche au niveau de la biodiversité.
Et cet impact-là, peut-être aussi, il y a sur les animaux qu'on retrouve, parce que j'imagine qu'on ne retrouve pas nécessairement les mêmes oiseaux, les mêmes animaux dans les taillis que dans les grands arbres.
Exactement. Donc à chaque strate, il correspond sa biodiversité animale. D'ailleurs, on peut le voir, hein, les oiseaux qui se perchent dans la cime des grands arbres, c'est pas les mêmes que ceux qui se cachent ou que se tapissent dans les fourrés. Par exemple, dans les grands arbres, on va voir des corneilles. Bon, évidemment, et éventuellement, si c'est plutôt un milieu naturel, on va voir des rapaces. En tout cas, on va voir des oiseaux de grande taille. En ville, on voit généralement des corneilles. Dans les taillis, si on est observateur, on va voir des parulines, des petits oiseaux coloris qui pépient. Donc, il y a plein de ces petits oiseaux qui nichent dans les fourrés à 1 mètre ou à 1 ou 2 mètres du sol. Généralement, on aime bien mieux voir ou entendre des petits oiseaux colorés que de coasser les corneilles. Alors, si on supprime les taillis, ben, on va rester avec le coassement des corneilles. Comme réveil matin, c'est pas toujours très agréable.
Non, effectivement, surtout que c'est moins régulier aussi, peut-être, ouais. Que les petits oiseaux. Là.
Et puis la faune, c'est pas juste les oiseaux, hein, c'est aussi les grenouilles, les écureuils. Bon, peut-être pas à Québec, mais ailleurs dans le monde, c'est des reptiles, des lézards qui se déplacent sur les murs en pierre. Alors quand j'entends parfois que sur un terrain qu'on s'apprête à bâtir, on a conservé les arbres matures et éliminé un bouquet de trembles de peu d'importance, je me demande au nom de quoi on considère que ce bouquet de trembles était de peu d'importance. Parce que finalement, c'est un critère assez humain, là, esthétique.
Exactement. C'est pas beau, un bouquet désorganisé. Nous, ce qu'on veut, c'est contrôler la nature.
C'est ça. C'est un grand arbre à grand déploiement, mais le petit bouquet touffu, taillé, là, mal contrôlé, avec des branches frêles, on n'en veut pas. Alors qu'en fait, il y a plein de choses qui se passent dans ce bouquet de trembles. Et dans mon coin, par exemple, à Beauport, le long de la piste cyclable, on a arraché il n'y a pas très longtemps un petit boisé de petits bouleaux avec des arbres bon, qui semblaient peut-être un petit peu chétifs, qui avaient les pieds dans l'eau. Alors évidemment, c'est pas très agréable pour aller se promener. Mais ces arbres qui ont les pieds dans l'eau, je suis sûre qu'il y avait plein de bestioles qui vivaient là-dedans. Il y avait certainement un petit écosystème qui était là, parce qu'il n'y est plus.
et en dehors, Valérie, le vide de la diversité qu'ils abritent, est-ce que il y a aussi d'autres avantages, peut-être, à avoir des arbres en ville?
Oui, effectivement, un arbre, on le sait, on l'entend parler de temps en temps, un arbre, ça capte le CO2, donc ça purifie l'air des villes. Chaque arbre, ça fixe 10 kilos de CO2, et un hectare de forêt urbaine, ça élimine 15 tonnes de smog.
C'est quand même beaucoup, là.
Ouais, c'est ça. Là, j'ai trouvé ces chiffres-là sur le site de Arbre Canada, qui est une association un petit peu pour promouvoir la plantation d'arbres en ville et aussi en dehors des villes. Ensuite, les arbres, c'est aussi un climatisateur naturel. Une ville sans arbres, quand le soleil chauffe, ça devient une fournaise. Hein. Les villes sont très minéralisées de plus en plus. Donc, quand je dis minéralisées, c'est qu'elles sont couvertes d'asphalte, de ciment, de béton, etc. Il y a de l'asphalte partout, dans les rues, les stationnements, les centres d'achat, les entrées d'auto devant les maisons. Tout ça, c'est minéralisé. Et tout ça, ça fait une surface au-dessus de laquelle l'air chauffe. Ça crée ce qu'on appelle des îlots de chaleur. Et ça peut faire monter la température de 3 à 10 degrés par rapport à ce qu'elle serait normalement s'il n'y avait pas ces surfaces minéralisées qui réchauffent l'air, là.
Donc quand on se plaint de la canicule, dans le fond, la manière dont on a fait nos villes a une influence directe là-dessus. Si on avait mieux planifié, si on avait fait des villes plus vertes, mais il ferait peut-être un peu moins chaud.
Si on avait fait des villes ombragées, il ferait peut-être moins chaud, exactement. Donc, planter des arbres, bah, c'est faire de l'ombre, c'est rafraîchir les rues, c'est rafraîchir les cours d'école, c'est rafraîchir les maisons aussi, tout simplement. Hein. Une façade ombragée à l'intérieur va faire moins chaud qu'une façade en plein soleil aussi. Et peut-être que s'il y avait un peu plus d'arbres autour des maisons, il y aurait peut-être besoin d'un peu moins de climatiseurs aussi dans les habitations. Puis je trouve toujours ça surprenant, le nombre de climatiseurs dans ce pays qui se plaint généralement de son climat nordique. Drôle de contradiction parfois.
En fait, il fait trop chaud en été, il fait trop froid en hiver. On n'est jamais vraiment satisfait.
Ouais, c'est ça. Et puis c'est pas tout, les arbres, la végétation en général, ça retient l'eau de pluie. S'il n'y a pas d'arbres, ben, dans les arbres, quand il pleut, les arbres sont pleins d'eau, là, alors que sinon l'eau tombe directement sur l'asphalte. Et donc, le fait que l'eau tombe dans les arbres, finalement, ça empêche le ruissellement dans les rues. Donc, ça empêche le débordement des égouts pluviaux. Toute l'eau qui tombe dans la végétation, finalement, profite à la végétation et s'infiltre progressivement ensuite dans le sol pour rejoindre la végétation. Alors que sinon, ben, l'eau qui tombe directement sur l'asphalte, elle est perdue pour la nappe phréatique.
Oui, ça marche dans les égouts, dans le fond, dans les eaux usées, dans les trop-pleins.
Éventuellement, il y a des débordements, puis peut-être plus maintenant parce que la rivière Saint-Charles a été réaménagée, mais c'est éventuellement, sinon il y a des débordements, puis ça fait plein de petits colis qui vont se noyer dans la rivière.
et donc, les arbres, c'est pas seulement parce qu'on a tendance à les voir justement pour leur aspect esthétique, pour faire beau, mais c'est pas seulement pour ça. Et bien au contraire, en fait, on se rend compte presque c'est l'inverse, que c'est des arbres qui font carrément partie, au même titre que les routes, que les trottoirs, que les maisons, ouais, de l'infrastructure urbaine.
C'est ça, effectivement, mais t'as souligné l'esthétisme, et puis c'est quand même important, là, je l'ai pas dit non plus, mais l'esthétisme en ville, c'est quand même important. C'est quand même plus agréable de vivre dans une ville habillée, bon, avec des beaux monuments, avec des bâtiments entretenus aussi, puis avec de la verdure, que dans une ville sale et délabrée. C'est important pour le tourisme, donc ça apporte toujours des sous, là, ça fait un peu tourner l'économie locale. Puis c'est aussi important pour le moral des résidents.
De voir un peu de vert, des
fois. C'est ça, là. Exactement. D'ailleurs, c'est pas dur à constater, hein, les espaces verts sont toujours, ne sont jamais des lieux délaissés. Il y a toujours du monde. Il n'y a qu'à voir le succès de la rivière Saint-Charles ou de la promenade Samuel de Champlain depuis que c'est réaménagé. C'est toujours plein de monde. Mmh. Alors qu'il n'y a pas grand monde qui se promène dans les parcs industriels ou dans les, les endroits laids. Donc, c'est clair que pour le moral, on aime ça. Alors, comme les arbres jouent de multiples rôles en ville, bah, effectivement, il faut en prendre soin. Et comme tu le dis, ça fait partie de l'infrastructure urbaine. En fait, c'est une infrastructure verte. Donc, et comme toute infrastructure, tout mobilier, bah, faut en prendre soin. Donc, faut maintenir la forêt urbaine sous toutes ses formes, les grands arbres comme les taillis. Faut prendre soin des arbres en ville, et puis les arbres en ville, ils sont quand même menacés de toutes parts. Un arbre, ça pousse pas, c'est pas fait naturellement pour pousser au milieu de l'asphalte. Donc, faut en prendre soin. Il faut lui porter des soins particuliers, comme par exemple en hiver, c'est sûr qu'il faut le protéger des sels, des déglaçants routiers. Il faut le protéger des impacts de véhicules. C'est pas pour rien qu'il y a des protections métalliques autour des arbres qui sont sur les trottoirs. Souvent, il y a des protections métalliques parce que les arbres sont toujours reçoivent toujours des coups, que ce soit par les passants, les vélos, les engins routiers qui font des un peu encombrants, qui font des manœuvres. Les arbres sont toujours en train de se prendre des coups. Ensuite, un arbre dans une rue, ça a pas beaucoup de place pour déployer ses racines, hein. Donc, dès qu'il y a des travaux, faut revoir quelque chose dans les conduites d'eau, dès qu'on fait quelque chose, dès qu'on travaille dans le sous-sol, on est dans les racines des arbres. Ça nuit finalement à son développement aérien. Donc, faut faire attention. Les arbres en ville, faut en prendre soin. Donc, c'est une infrastructure. Et comme n'importe quelle infrastructure, ben, ça se développe, ça doit se mettre en place. Et ensuite, quand même, celle qui est en place, il faut en prendre soin. C'est comme notre maison, finalement, notre appartement. Faut le construire et ensuite, faut l'entretenir.
Exactement. On en a besoin un peu, comme tu nous le dis, au même titre qu'on a besoin d'un toit. Ben, ça a des impacts positifs à plusieurs égards. Ouais. Alors, scientifiquement, c'est démontré.
Oui, absolument. Oui.
Voilà. Vous êtes à l'antenne de CKRL 89.1. Raymond Poirier, toujours avec vous ce matin. Et on poursuit donc ces regards autour de la question des forêts urbaines. Tout d'abord, en début de cette semaine thématique en route vers les élections municipales. Et pour poursuivre ce regard, je suis en compagnie maintenant de Joanne Elsner, qui est présidente du comité des arbres de Sainte-Foy-Sillery. Bonjour.
Bonjour.
Alors, ben, on a dressé donc un portrait, un regard sur l'intérêt, sur l'impact peut-être sur l'environnement qu'ont ces arbres-là, qu'ont ces forêts urbaines-là. Et si on regarde la situation à Québec en termes de protection des boisés urbains, de protection des forêts urbaines, est-ce qu'on a l'impression de votre côté qu'il y a suffisamment d'espaces protégés ou que la ville traîne la patte sur ce dossier-là?
Écoutez, nous, on a plutôt l'impression que la ville traîne la patte et les chiffres le démontrent, hein. Québec, 5,2% du territoire de la ville est protégé, est en espace vert naturel, alors que l'objectif pour Québec est de 8%, donc ils sont encore très loin de leur objectif. Et il faut savoir aussi que de ce 5,2%, la moitié sont les battures. Alors, c'est un milieu qui est très facile à protéger parce qu'il n'y a personne qui veut construire sur les battures du fleuve. Donc, en véritable, si vous voulez, milieu naturel boisé, il y a seulement que 2,5% à Québec. Alors que si on compare Québec à d'autres villes, au Québec ou au Canada, qui ont des grands pas d'avance. Prenons par exemple Vancouver qui a connu un boom démographique incroyable au cours des dernières années, mais qui quand même a réussi à conserver 11% de son territoire en espace vert et pas des grandes superficies en périphérie, là, comme le Mont-Bélair, par exemple, que la Ville de Québec nous propose, qui est hors de portée de tout citoyen qui n'a pas d'auto parce qu'il n'y a aucun autobus qui se rend là. Mais si on regarde sur la carte de Vancouver et qui décrit les espaces verts qu'ils ont, ils ont des espaces verts dans le centre-ville, ils ont des espaces verts dans le centre où les citoyens vivent, et c'est ça qui est un principe important aussi quand on parle de conservation de boisés ou de forêts urbaines, c'est d'avoir à proximité des citoyens une vie naturelle, mais aussi, je veux dire, une vie artistique, une vie culturelle, pour pas que les gens aient besoin de prendre leur auto pour aller magasiner, pour aller au théâtre, mais aussi pour aller se promener en forêt. Alors, c'est ce principe-là qu'on veut que la ville suive, que d'autres villes ont suivi, comme Berlin, par exemple, dont 25% de l'espace est en espace vert. Et il y a des grandes villes dans le monde qui reviennent à ce principe-là ou qui adoptent ce principe-là. Il y a Paris, tout dernièrement, qui annonçait qu'elle voulait détruire des quartiers au complet pour créer des espaces verts et bâtir autour. Alors, c'est le grand principe de densification intelligente, c'est-à-dire que on conserve ce qui est vert, on conserve ce qui a une grande importance écologique, ce qui a une grande importance esthétique, donc les armatures, les plus beaux spécimens, et on densifie autour sur ce qui est déjà construit, ce qui est déjà bâti, ce qui est déjà asphalté. À Québec, il y a des immenses terrains de stationnement qu'on pourrait récupérer, qu'on pourrait mettre souterrain et bâtir dessus. Par exemple, on peut penser au stationnement de Place Laurier. Ces stationnements-là, on pourrait les enfouir, les faire souterrain, bâtir au-dessus, au rez-de-chaussée des grands magasins. Mais mettre d'autres étages en plus pour construire des bureaux, construire aussi au sommet des condos pour les gens qui veulent être à proximité des centres d'achat, de l'hôpital qui est en face. Alors, il y a toute une façon de développer qui est à changer dans la ville de Québec là, et qui est fort possible. Il suffit juste d'avoir la volonté politique de le faire et d'avoir aussi la vision de cette ville-là de l'avenir.
Et justement, en termes de vision, la ville s'est dotée d'un règlement d'urbanisme ou est en processus vers la dotation d'un règlement d'urbanisme. Est-ce qu'on a l'impression que ce règlement-là est une bonne première étape ou qu'il y a des failles qu'il faudrait que la prochaine administration municipale, justement, comble de manière adéquate?
Nous, on pense qu'il y a des failles, que le règlement d'harmonisation qui va entrer en vigueur prochainement ne permet pas, si vous voulez, de conserver cette forêt urbaine-là, ne protège pas adéquatement cette forêt urbaine-là et ne démontre pas non plus une volonté de la ville de conserver les boisés qui ont été jugés remarquables par la ville elle-même. Par exemple, on peut prendre le boisé Nelson qui apparaît au répertoire des milieux naturels d'intérêt de la ville de Québec et la ville ne démontre pas l'intention de protéger ce boisé-là. Elle projette plutôt le raser à 60% en disant aux citoyens, bon, garde ce qu'il y a de plus beau, ce qui a été démenti par le docteur Jean Bousquet de l'Université Laval. Le plus beau, c'est-à-dire tous les arbres centenaires et bicentenaires vont être coupés. Et ce qui va rester, parce que c'est morcelé dans une espèce de dentelle, va mourir parce que ces arbres-là ont poussé à l'abri du vent, ont poussé à l'abri de la neige qu'on projette sur eux. Alors, ces arbres-là remarquables, s'il en reste, ils vont mourir à cause de l'effet de lumière.
Donc, ce qu'il faudrait, à la limite de ce que j'en comprends dans un éventuel règlement d'urbanisme, c'est de se dire, il faut 8% des boisés qui seraient protégés. Dans un deuxième temps, se donner des critères clair et pour la sélection justement de quel boisé, de quelle zone protégée qui est déboisée dans tous les secteurs?
Bien, on a déjà ces critères-là. Ces critères-là, ils ont déjà été établis par la Ville de Québec et par d'autres villes dans le monde. Donc, ces critères-là, ils sont déjà disponibles. Et la Ville de Québec a déjà sélectionné les milieux remarquables, les milieux naturels d'intérêt dans un magnifique répertoire qui s'appelle le Répertoire des milieux naturels de Québec. Et ce qu'on demande à la Ville de Québec, c'est d'avoir la volonté politique de protéger ces milieux naturels d'intérêt.
Donc, elle a déjà ciblé, et dans le fond, le trois quarts du travail est fait, c'est juste d'avoir la volonté de faire, de se dire, regardez, on a déterminé ça, on le fait maintenant.
C'est ça, exactement.
Et si justement la ville persiste à revenir peut-être un peu sur différents secteurs, à dire ben finalement le boisé Nielsen, par exemple, finalement un boisé X à Charlebourg, finalement les falaises de Sillery, si la ville persiste à décider de développer sur ces secteurs-là, à quoi peut-on s'attendre selon vous, Joanne Elsner?
Ben écoutez, je pense que les citoyens vont monter aux barricades. Les citoyens aiment leur ville, les citoyens veulent conserver la beauté de leur ville, veulent conserver leur milieu de vie, veulent pas avoir une ville bétonnée mur à mur. C'est ça qui provoque la migration des gens en périphérie, en banlieue, parce qu'ils veulent retrouver un petit coin vert, alors qu'il y a beaucoup de centres-villes nord-américains qui ont été bétonnés mur à mur dans les années 60. Alors les gens veulent que ça cesse, ils veulent conserver ce qui reste encore comme richesse, veulent conserver les paysages magnifiques de Québec, là, sur le bord du fleuve, le promontoire de la ville de Québec. Alors, c'est sûr qu'ils vont monter aux barricades si la ville persiste à vouloir détruire ça.
On parle carrément donc d'une défiguration à la limite de Québec?
Oui, c'est ça. Là, je pense que la ville de Québec devrait avoir un véritable plan de protection du patrimoine naturel de Québec, qui est une part importante de la beauté de Québec, de l'attrait touristique de Québec aussi, là, si on veut que les touristes sortent du centre-ville, là, de la ville historique intramurose de Québec. Il faut qu'on puisse les attirer ailleurs, les attirer à la ville de Bagatelle, au parc du Bois-de-Coulonge, sur les promenades Samuel de Champlain, et de la plage Jacques-Cartier, la marina de Cap-Rouge. Il y a plein d'autres endroits qui sont magnifiques. Le parc Arthur-Robertval, il y a les ruines du premier phare de Jacques-Cartier. Donc, si on veut sortir les touristes et les amener ailleurs, ben il faut que le ailleurs soit conservé, qu'on ait protégé sa beauté. On pense aussi au chemin Saint-Louis, qui est un artère historique, une artère patrimoniale, et qui, avec le nouveau règlement, va perdre, si vous voulez, au fil des années, sa beauté, parce qu'il n'y a aucun plan de protection du chemin Saint-Louis dans ce règlement-là. Et maintenant, on permet la construction de quadruplex, là où il y avait des maisons unifamiliales avec un immense terrain paysager et arboré. Et quand on parle de quadruplex, on parle au moins de 4 cases de stationnement, et même plus, 8 cases de stationnement sont 2 par appartement, et même là, il n'y a aucune limite. Donc, on voit que ça va s'asphalter et que ce chemin-là va perdre sa beauté historique, alors que c'est une piste cyclable verte. Alors, c'est important de conserver sur le chemin Saint-Louis tous ces arbres magnifiques-là qui poussent, et de ne pas permettre qu'il y ait de nouveaux boisés Pidoux. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ce qui s'est passé au boisé Pidoux.
Le promoteur qui a tout simplement décidé, dans le fond, de couper les arbres sans attendre d'avoir un permis.
Ben, écoutez, il a eu le permis de couper les arbres en bordure du chemin Saint-Louis. Je pense que c'est au-delà de la coupe illégale de quelques arbres qui étaient, si vous voulez, en lisière de son terrain, mais qui n'étaient pas sur le chemin Saint-Louis. Le principal scandale de ça, de cette affaire-là, c'est le fait que la ville ait autorisé le promoteur a coupé les arbres en bordure du chemin Saint-Louis parce que le promoteur voulait se faire une entrée en U pour que les gens puissent accéder à son édifice. Alors, ils lui ont donné la permission de couper les arbres en bordure du chemin Saint-Louis, ce qui, à mon avis, est quelque chose d'intolérable. Mm-hmm. Il faut conserver absolument la beauté de cette artère-là. Il faut conserver aussi le goût des citoyens de faire du vélo le long de cette artère-là et ne pas les inciter à prendre leur vélo pour aller dans le corridor des cheminots, par exemple.
Et en terminant, Joanne Elsner, justement en route vers la campagne électorale qui va débuter de manière un peu plus intensive en septembre, donc qu'est-ce qu'on devrait garder en tête? Quelle serait la demande justement auquel il faudrait que les élus répondent idéalement favorablement?
Ben, écoutez, je pense qu'ils devraient s'engager à conserver les milieux naturels d'intérêt qui ont été répertoriés dans le répertoire. Ils devraient s'engager à protéger le paysage de Québec. Donc, le paysage de Laurentides, le paysage du fleuve Saint-Laurent, le paysage du chemin Saint-Louis et de la falaise qui longe le fleuve Saint-Laurent. Et c'est ce que les groupes de citoyens vont leur dire au cours de cette campagne électorale-là, parce qu'on a vraiment l'intention d'être très actifs et de se regrouper. Alors, on projette en septembre une série de randonnées pédestres et cyclistes là, pour mettre cet enjeu-là sur la carte électorale et aussi pour faire découvrir aux citoyens la richesse là, de ces boisés-là qu'on veut défendre.
Mais Joanne Elsner, donc du Comité des arbres de Sainte-Foy-Syrie, merci.
Merci beaucoup.
Bonne fin de journée.
Merci, vous aussi.
Ah ben voilà, donc ce regard sur les boisés urbains, regard qu'on aura sûrement l'occasion d'ailleurs de renouveler, mais pour l'instant, on va poursuivre un peu les réflexions qu'on a amorcées ici à l'antenne de CKRL et on va ouvrir sur la question de la planification urbaine. On poursuit avec une discussion qu'on va mener avec tout d'abord Marc Boutin, qui est géographe, qui est collaborateur notamment au journal Droit de parole. Bonjour.
Bonjour.
Également avec Jean-Yves Dégagné, qui est le porte-parole du collectif des éco-citoyens et éco-citoyennes. Bonjour.
Bonjour.
Alors, on va s'intéresser aux questions justement de planification urbaine, de manière plus précise, planification urbaine dans le centre-ville, planification urbaine dans la première couronne également, et peut-être au-delà, qui sait. Et justement, peut-être si on dresse tout d'abord un portrait, si on met un peu nos cartes sur table, quand on regarde actuellement la manière que met de l'avant la ville dans son développement, dans sa densification, est-ce qu'on a l'impression que Québec est sur la bonne piste présentement?
Bien, actuellement, si on parle du centre-ville, il y a le PPU. Le PPU, ça a été mis sur pied par l'administration Labeaume, et puis c'est assez important pour... on nous dit qu'on veut préparer un plan d'urbanisme pour le centre-ville. Alors, je parle de la Haute-Ville quand je parle de centre-ville. Le PPU va du Musée du Québec jusqu'à l'église Saint-Vincent-de-Paul en passant par la Grande Allée et toute la colline parlementaire. Ce qui arrive, c'est qu'on travaille à deux vitesses là-dedans. C'est que je trouve il y a un monsieur qui s'appelle François Picard, qui est sur le conseil de la ville, qui, lui, semble... couvrir M. Labeaume. Pendant que M. Labeaume prend des décisions, M. Picard nous dit que on va attendre de faire un plan d'urbanisme et ensuite on prendra les décisions. Il dit ça d'un côté, alors les gens participent. Il y a eu quand même une séance de consultation au mois de mai. Et puis on a envoyé des mémoires et on nous dit que dans un an, il y aura un plan d'urbanisme et qu'ensuite on planifiera et ensuite on prendra des décisions. Mais il semble que M. Labeaume fait fi des paroles de M. Picard. Alors, on a comme un discours à deux vitesses sur l'aménagement du centre-ville.
Moi, je partage le point de vue de Marc aussi. Je regarde un peu qu'est-ce qui se passe dans Limoilou, en particulier dans le secteur plus Maizeray, là. On sait qu'il y a en plein cœur, dans le fond du quartier Limoilou, il y a un boulevard qui s'appelle le boulevard Henri Bourassa. Et récemment, il y a eu, je sais pas si les citoyens le savent, là, mais il y a eu une consultation. Il y a un comité qui a été mis sur pied par le maire Labeaume, qui est un comité sur la mobilité durable, tu sais. Donc, un comité qui a comme mandat de d'établir un plan, tu sais, sur les différents modes de transport, comment on devrait harmoniser, tu sais, le transport de la voiture, les cyclistes, les camions, tout ça. Alors, il y a une consultation qui est en cours, dont la population a presque pas entendu parler parce qu'il y a eu les gens ont eu peu de publicité. Je pense que l'annonce de la consultation s'est faite une semaine avant qu'il y ait les consultations comme telles. Alors, il y a eu donc peu de citoyennes qui ont participé. Mais j'imagine que le maire Labeaume, à la fin du processus, va dire, écoutez, on a consulté les citoyens. Alors, consulter les citoyens, c'est pas de faire une séance d'information, parce que j'ai assisté pour le collectif à la séance qu'il y a eu dans le secteur de Maizeray. Et finalement, c'était beaucoup plus une séance d'information qu'une séance de consultation. Alors, moi, je dirais qu'on est en présence d'une administration qui tient un discours, tu sais, qu'il est à l'écoute des citoyens et des citoyennes, mais qui, en pratique, prend des décisions qui sont contraires aux intérêts puis à la qualité de vie des citoyens puis des citoyennes.
Ben oui, puis ce matin même, là, on procède à la démolition, je crois, du monastère des Franciscains sur la Grande Allée. On procède à la démolition. C'est le retour là, des vacances de la construction. On procède à la démolition d'une église qui est la chapelle des Franciscaines, je crois, sur la Grande Allée aussi. Et puis, on a annoncé qu'on va démanteler la façade de Saint-Vincent-de-Paul. Alors, on nous a demandé de se prononcer là-dessus. Puis là, Labeaume prend les décisions. Pendant ce temps-là, François Picard le couvre. C'est là que je parle d'un discours à deux vitesses.
Puis, moi, ce que je trouve inquiétant aussi, que j'en regarde ça d'un point de vue plus de Limoilou, par exemple, un peu plus éloigné du centre-ville, sur la question, par exemple, du camionnage lourd, par exemple, tu sais. La Ville de Québec a décidé que ça fait deux étés, là, qu'on interdit le camionnage lourd sur le boulevard Champlain. Et là, on le fait parce que là, pour l'industrie touristique. Pour les touristes, c'est mauvais que, dans le fond, les touristes côtoient les camions lourds. Mais nous, les citoyens, mais sauf ça, cette décision-là, ça a des impacts sur nous, les citoyens de Limoilou qui vivent à proximité d'Henri Bourassa, parce que les camions viennent passer sur Henri Bourassa en plein cœur d'un quartier résidentiel. Nous, c'est des résidences, tandis que quand on va sur le boulevard Champlain, là, les résidences sont très éloignées. C'est vraiment, on a l'impression qu'aussi que toutes les décisions de la ville sont faites en fonction de l'industrie touristique. Hein?
Tout à fait,
puis du
tout
milieu
fait.
Des affaires, tu sais. Alors, je pense qu'on est en train d'assister à un retour de l'époque malheureuse, tu sais, de la montagne,
la montagne,
le Pelletier, dans le fond, où là, c'est vraiment, c'est tout est fait en fonction, dans le fond, de l'industrie touristique ou du milieu des affaires.
Et
les citoyens là-dedans sont, dans le fond, on les occupe en faisant des festivals, puis en disant qu'on est une belle ville, puis que tout va bien.
Et j'imagine que justement la question du développement touristique, ça touche aussi le centre-ville. On parlait de la démolition de la façade, par exemple, qui sera probablement remplacée par un hôtel. C'est encore à suivre. On parle de densifier le centre-ville également, plus d'hôtels, plus de tours. Et d'ailleurs, j'ai comme un peu l'impression qu'on nous ramène beaucoup sur un débat où on nous donne deux choix. On nous dit soit vous densifiez le centre-ville et la première couronne, soit vous poursuivez l'étalement urbain. Est-ce que c'est un dilemme qui est bien réel selon vous? Et si oui, est-ce qu'il y a une solution à ce dilemme-là?
Moi, je pense que quand on parle de densification, quand l'hôtel de ville parle de densification, on parle de faire des gratte-ciels. Là, on parle pas de faire nécessairement du résidentiel. Le mot densification, c'est un mot qui est ambigu. Actuellement, le quartier, le Faubourg Saint-Jean, moi, où j'habite, là, c'est ce qu'il y a de plus dense quasiment au Canada, là. Il y a 18 000 personnes au kilomètre carré. C'est une densité énorme. C'est imbattable. C'est faux de penser que les gratte-ciels densifient. Les gratte-ciels font de l'étalement parce que tout gratte-ciel est relié à une autoroute, puis est relié à une banlieue dortoir, puis est relié à un centre d'achat. Et puis, il force les gens à utiliser l'automobile, puis l'automobile, ça crée de l'espace. Il faut que ça s'étale, puis ça coûte très cher, cet étalement-là. Là.
Alors qu'il y a des espaces disponibles, par exemple, quand je pense au secteur d'Estimoville, tu sais, dans Limoilou, à la limite de Beauport, on a vraiment une zone sinistrée, un peu l'équivalent de ce qu'était le cœur de Saint-Roch, tu sais, auparavant. Alors, il y avait des espèces de centres d'achat qui sont disparus, tu sais, avec l'étalement urbain, puis tout ça. Et là, c'est un secteur, dans le fond, où il n'y a plus rien, là, présentement. Alors, la Ville de Québec envisage effectivement un projet d'amener dans le fond des bureaux dans le fond pour les fonctionnaires. En fait, on voulait relocaliser des fonctionnaires du centre-ville vers des Estimoville justement pour un peu là développer ce secteur-là, un peu comme on a fait pour Saint-Roch, tu sais. Alors que les projets actuels de la ville, de densifier le centre-ville, ça va faire en sorte que ce projet-là va mourir dans l'œuf finalement. Tu sais, on n'aura plus la possibilité de développer aussi ce secteur-là. Donc il y a des messages contradictoires là, au niveau de l'administration et on sent qu'il y a un manque de cohérence effectivement.
Et j'aimerais revenir sur quelque chose que Marc Boutin vous avez amené. Chaque nouveau gratte-ciel doit être relié à une autoroute, à un centre d'achat. Est-ce que au centre-ville, on sera en mesure, par exemple, d'être capable d'alourdir encore le trafic, d'augmenter? Parce que si on construit des nouveaux gratte-ciels, on va amener de nouvelles autos également dans le centre-ville. Mmh. Est-ce qu'on est capable de supporter ça?
Bien, aux dernières consultations, il y avait un mot d'ordre qui a été lancé par les gens qui ont participé. Il y avait une bonne participation, il faut dire, peut-être contrairement à ce qui est arrivé peut-être dans Mézeray. C'est que là, on a attiré 150 personnes là, à l'hôtel Delta. Et en général, on entendait une chose, il n'y aura pas de gratte-ciel au centre-ville. On ne veut pas de gratte-ciel au centre-ville, à moins qu'il y ait un transport léger sur rail, un tramway. Puis ça, c'est au cœur de toute l'histoire. Si M. Labeaume nous arrive et il dit, au départ, il n'y aura pas de tramway, ben, je vois pas comment il peut mettre de nouveaux gratte-ciels. C'est déjà, aux heures de pointe, c'est déjà très dense sur la rue d'Aiguillon, sur les petites rues de Saint-Jean-Baptiste, sur les grandes rues aussi. La rue Saint-Jean est bloquée tous les soirs. C'est quoi l'idée, là? C'est quoi, s'il y a pas de transport en commun efficace, là, c'est sûr qu'on va rallonger les autobus, là, semble-t-il. Il va y avoir des autobus articulés qui vont remplacer sur le 800-801. Mais c'est pas suffisant, ça, pour ça changera pas grand-chose, parce que c'est déjà surchargé le 800-801 aux heures de pointe. Alors, c'est qu'on va peut-être juste arriver, on va équilibrer le transport en commun, mais de là à faire de nouveaux gratte-ciels, il y a toute une marge. Alors, tout ça, c'est relié à un réseau d'autoroutes, puis une des raisons qu'on donne pour pas faire de tramway, ça coûte trop cher, sauf que actuellement, on vient d'annoncer la réfection d'un échangeur autoroutier, celui du Vallon. Charest, on a annoncé 250 millions au départ, c'est rendu à 350, ça va être un demi-milliard cette affaire-là. Ça, c'est un échangeur, puis il y en a 30 à Québec. Mm-hmm. Imaginez-vous le prix?
Et en même temps,
j'arrive à 15 milliards à peu près, là. T'sais, ça n'a pas de bon sens. Là.
Et j'imagine en même temps que quand on alourdit la circulation qui est déjà lourde dans Saint-Jean-Baptiste, on peut faire le pont aussi avec d'autres dossiers, je pense, dans les secteurs Limoilou. Mais il y a des impacts aussi, ça fait plus d'émanation de GES, etc.
C'est ça, ça augmente en fait les émissions de gaz à effet de serre. Donc, ça a un impact sur notre santé, sur la santé des citoyens et citoyennes. D'ailleurs, dans le secteur, vous savez que dans le secteur Limoilou, il y a eu une étude qui a été faite par la santé publique, par exemple, qui démontre que les gens de Limoilou, dans le fond, ont une espérance, dans le fond, ont 7 ans de moins d'espérance de vie que les gens de Sainte-Foy-Sillery. Et là, tu te dis, ben là, après, on sait qu'il y a deux, puis les deux principaux facteurs de cet écart-là d'espérance de vie, c'est un, la pauvreté, et deux, l'environnement. C'est les deux principaux facteurs. Le secteur Limoilou, finalement, est enclavé d'autoroutes. Tu sais, dans le fond, t'as à l'ouest l'autoroute Laurentien, t'as plus vers le nord l'autoroute de la capitale, t'as ensuite vers le fleuve l'autoroute du Frey-Montmorency, puis après ça, bon, t'as la rivière Saint-Charles là, qui nous sauve un peu, mais on est vraiment, le quartier Limoilou est enclavé d'autoroutes, et là, ces autoroutes-là, bien, naturellement, sont producteurs de gaz à effet de serre, puis on sait qu'au Québec, le principal défi, c'est de réduire les gaz à effet de serre émis par les automobiles. C'est ça le défi au Québec. Dans le reste, en Alberta, c'est d'autres choses, mais nous, là, c'est vraiment si on veut réduire les gaz à effet de serre, c'est qu'il faut réduire effectivement l'utilisation d'automobiles. Et ça passe par un plan agressif de transport collectif. Il faut faire un virage important et on a l'argent. On a l'argent. Il s'agit d'avoir la volonté politique de le faire.
Notre économie est basée, est pas basée sur l'essence, est pas basée sur l'automobile. Les automobiles ne sont pas construites ici. Non. Par contre, le transport en commun, oui, est construit ici par Bombardier.
Exactement.
Puis l'électricité, on a fourni. On a une économie qui ne nous appartient pas, puis on encourage à tour. L'automobile, la ville de Québec est dépendante de l'automobile comme aucune ville que je connais. Il y a plus d'autoroutes ici à Québec qu'il y en a dans toutes les villes d'Amérique du Nord par tête de citoyen. C'est 20 km par 100 000 habitants, puis la moyenne en Amérique du Nord est de 10. Fait qu'on a le double d'autoroutes. On a un réseau autoroutier qui est capable de soutenir une ville de 2 millions d'habitants. Fait qu'il faut le payer, ça, puis on est juste 700 000 dans la région métropolitaine. Ça fait que ça nous coûte 3 fois plus cher qu'ailleurs.
Et voilà.
Par tête d'individu.
Alors, quand on nous dit qu'on n'a pas d'argent, là, on voit que l'argent est mal utilisé.
Ben, il n'y a pas une logique économique là-dedans que moi, je comprends pas.
J'aimerais qu'on regarde un peu l'image qu'on essaie de donner à Québec. Semble-t-il que chez l'administration Labeaume, on y voit beaucoup de comparaisons. On pense à Chicago, on pense à Boston également. On dit, ben regardez, Québec pourrait devenir comme ça. Alors, je vous lance la question. Est-ce que Québec, justement, pourrait devenir un autre Boston? Est-ce qu'on aurait le potentiel?
Je pense qu'il faut faire attention. Là, on n'a pas à imiter d'autres villes parce qu'on a des qualités ici qui sont les nôtres. C'est une ville quand même elle est sur la bonne voie quelque part parce que c'est une ville, la beauté de la ville est pour quelque chose. C'est sûr que l'agglomération dans son ensemble n'est pas nécessairement belle, mais il y a un petit 5% de la ville qui est tellement beau comparé au reste qu'il y a comme un drôle de contraste. Mais le voyage de Labeaume à Chicago récemment, je pense qu'au printemps dernier, il est allé à Chicago, il est revenu très impressionné. Moi, ça m'a rappelé que Chicago, c'est peut-être pas le modèle à suivre pour Québec avec des gratte-ciels à outrance au centre-ville, parce que mettre des gratte-ciels côte à côte, il faut faire attention. L'un gratte-ciel nuit à l'autre, et puis ça fait des rues très sombres. Et puis, autour des gratte-ciels, c'est pas nécessairement là qu'il y a le plus d'activités urbaines. Hein, souvent, les quartiers les plus urbains sont des quartiers à l'horizontale. Et puis, le modèle de Boston est beaucoup plus proche de Québec. Boston, c'est une ville qui a un développement qui ressemble à Québec. C'est une ville qui a 375 ans d'histoire quand même, qui a cette longue histoire urbaine. Et puis, le centre-ville historique, ben ils doivent gérer ça eux autres aussi, comme on doit gérer le nôtre. Alors, il y a des problèmes qui, à Boston, se ressemblent beaucoup. Tandis que Chicago, c'est une ville adolescente, c'est une ville qui date du 19e siècle quasiment, là. Alors, à Boston, il y a des quartiers habités au centre-ville. Et puis, c'est une ville qui discipline ses gratte-ciels. Il y a des gratte-ciels. Il y a un quartier de gratte-ciels qui est le quartier des affaires. Et puis, il y a une ligne. Les gratte-ciels sont sur une ligne, une dorsale qu'on appelle le long de la rue Boylston, pour ceux qui connaissent la ville. Alors, ces gratte-ciels-là, qui ont 50, 60 étages, sont enlignés. Mais à côté, il y a des quartiers qui ne dépassent pas 4 étages et demi, 5 étages. Et puis, la discipline est très... Alors, l'hôtel de ville, plutôt que d'encourager la construction de gratte-ciels en dehors de ces zones-là, elle essaye de les réfréner. Alors, ces quartiers-là, il y a des quartiers habités au centre-ville comme qui ressemble beaucoup au Faubourg Saint-Jean, qui ressemble beaucoup au quartier latin de Québec. Moi, j'appelle le quartier latin qui est le quartier intramuros. Alors, c'est une ville qui ressemble beaucoup plus à Québec. Et pourtant, c'est pas une petite ville, là, parce que Boston, c'est une ville, la grande région métropolitaine. C'est deux fois grand comme Montréal. Là.
À la limite, ça serait de densifier plutôt les zones de petits édifices de à plusieurs étages, en fond, de
développer. Les quartiers les plus denses sont des quartiers avec une norme de 3 étages, 4 étages et demi. C'est ça de la densité. Si on parle de densité humaine, il y a toutes sortes de densités, là. C'est pour ça que le mot densité que j'ai dit tout à l'heure, c'est ambigu. Est-ce qu'on parle de densité humaine, démographique, ou on parle de densité pieds carrés? Si c'est des pieds carrés qu'on veut de bureaux, ben c'est une autre affaire complètement. Mais les pieds carrés de densité de bureaux créent de l'étalement, tandis que la densité à bas niveau, densité humaine, ne crée pas de l'étalement parce que ces gens-là ont des services sur place. Ces gens-là ne se promènent pas en automobile, ils se promènent à pied, en vélo et en transport en commun. Et puis les services sont autour. Ce qui arrive avec les gratte-ciels, c'est que les fonctions urbaines sont séparées. On va au gratte-ciel pour travailler, c'est auto, boulot, dodo, cadeau. On se promène en auto toute la journée.
Et j'imagine que ça change aussi la relation qu'on entretient avec le centre-ville, dans mesure où si un centre-ville qu'on fréquente plutôt qu'on habite, ben c'est
un centre-ville habité, c'est un centre-ville qui est pas relié à une banlieue au niveau fonctionnel. Alors, il est autonome. Pourquoi? Parce qu'il y a fragmentation des fonctions. Les fonctions sont morcelées. Et puis, l'individu attend chez lui que les fonctions se fragmentent pour se rapprocher de son logis.
Puis, moi, je pense qu'il faut faire attention aussi, dans le fond, c'est que, tu sais, dans le fond, Québec, c'est pas seulement le centre-ville, hein. Tu sais, dans le fond, il y a le côté carte postale de Québec. Effectivement, Québec est le centre-ville de Québec est un très beau centre-ville, qui est un beau centre-ville parce qu'il y avait, tu sais, une administration, l'administration de l'Allier, le Rassemblement populaire qui est devenu le RMQ, s'est donné une vision, dans le fond, tu sais. Et au départ, on doutait de cette vision-là, en disant, tu sais, quand on a commencé à dire, ben on va faire un parc en plein cœur de Saint-Roch, tu sais, tout le monde disait, ça a été beaucoup ridiculisé à l'origine, tu sais. Mais maintenant, je pense que personne voudrait, tu sais, remettre, dans le fond, quand on voit comment le Saint-Roch est devenu, comment c'est devenu très beau, tu sais, c'est parce qu'il y avait des gens qui avaient une vision, effectivement, du centre-ville, qui voulaient redonner au centre-ville, effectivement, parce qu'on a fait un parc, mais aussi on a amené aussi des habitations. Hein, on a construit du condominium, du logement social. Moi, je crois beaucoup à une mixité aussi. Dans le fond, c'est pas tout d'amener, tu sais. Puis il y a aussi ensuite les commerces. Hein, se sont ajoutés là. Alors dans ce sens-là, moi je pense que si on veut vraiment faire du développement urbain, il faut pas seulement développer le centre-ville, mais il faut penser que il y a aussi des arrondissements autour de centre-ville là où il y a un potentiel de développement. Et je reviens encore avec par exemple tout le secteur d'Estimoville, tu sais, où la ville avait des projets de développement. Tu sais, par exemple, on avait dans Limoilou, on avait une ferme urbaine, tu sais. Ferme urbaine qu'on a laissé démolir. Il y a eu personne, dans le fond, tu sais, quand les religieux ont décidé que là, ils mettaient fin.
À côté de Robert Giffard.
À côté de Robert Giffard, tu sais. Il y avait une ferme qui servait d'ailleurs de lieu de réinsertion pour des ex-patients, dans le fond, de Robert Giffard. Et là, du jour au lendemain, il y a eu parce que ça faisait partie des projets de développement de Simoville, de dire, ben, en fond, on va encourager, dans le fond, c'est une ferme urbaine, dans le fond, à quelques pas, tu sais, du centre-ville. On aurait pu, dans le fond, la ville, reprendre ce projet-là, tu sais, puis le soutenir. Mais non, on l'a laissé démolir parce que là, il y avait le beau projet de la neurocité qui vient de, tu sais, qui est complètement tombé à l'eau. Alors, je vous dirais que moi, ce qui me préoccupe, c'est que dans le fond, si on veut développer la ville de Québec, il faut penser aussi qu'il y a des arrondissements. Il y a Charlebourg, il y a l'arrondissement Sillery-Sainte-Foy. Donc, il faut penser qu'il y a aussi, il faut avoir une vision globale et cette vision globale-là doit inclure les arrondissements.
Oui, j'en fais, je trouve que c'est un point qui est intéressant. Tout à l'heure, on parlait de l'importance, par exemple, d'avoir des parcs dans les différents secteurs, d'avoir aussi des services de proximité. J'ai l'impression que les services de proximité passent aussi par la création de petits centres-villes, des centres-villes d'arrondissement qui auraient, bon, oui, dans le centre-ville de Québec, oui, à Limoilou, où il y en a un. Charlebourg qui est en train de s'en développer un avec le Très-Carré, mais qu'en est-il des autres secteurs de Québec et comment justement essayer de les encourager à développer ces centres-villes-là et à se développer peut-être une petite densité humaine, justement, aussi dans les différents secteurs de la ville?
Mais je pense que la notion de centre-ville doit s'élargir à Québec. Moi, je la ramène. Moi, je monte jusqu'à la 18e avenue, puis même j'inclus Mézeray maintenant sur entendre M. Desgagnés. Mézeray en fait partie. Ouais. C'est le centre-ville, c'est là où il y a des murs mitoyens. C'est là où il y a des mitoyens. Ouais. Limoilou fait partie du centre-ville.
Okay.
Mais c'est parce que la notion de centre-ville, quand on parle de centre-ville à des fonctionnaires de la ville, souvent ils ne pensent qu'à l'industrie touristique, puis ils restent à l'intérieur des murs. C'est que l'industrie touristique est beaucoup trop concentrée dans un petit... Je veux dire, le centre-ville déborde. Alors, en concentrant toute l'industrie touristique autour de la place Douville, ce qu'on fait, c'est qu'on est en train de tuer la poule aux œufs d'or. Hein, c'est que si on pouvait avoir des touristes qui se promènent un peu plus à Saint-Roch, un peu plus à Limoilou, Québec deviendrait une espèce de produit touristique. Puis moi, j'appelle le mot touristique. C'est le mot industrie que j'aime pas là-dedans. Le tourisme n'a pas d'affaire à être une industrie. Les citoyens devraient accueillir les gens qui viennent voyager à Québec. Si on va à Paris, on va pas juste à la Tour Eiffel, là. On va dans les quartiers. Ce qui est intéressant, c'est d'aller dans les quartiers habités. Puis tous les arrondissements de Paris, les vins sont intéressants. Là. C'est un peu cette notion de centre-ville-là qu'on devrait avoir. Puis, mais il faut faire attention. À un moment donné, on exagère. Quand on est rendu à Saint-Jean-Chrysostome, à Ville-Vanier, là, ça marche pas à Ville-Vanier, excusez, à Val-Bélair. Là, ça marche
on
plus.
Est
là, parce que
loin,
là, on est rendu à 30 km du centre-ville. Hein. Les citoyens qui coûtent le plus cher à une ville, plus on vit loin, plus on coûte cher. Là. Parce que là, il y a le système d'autoroute, on veut des nouvelles écoles, hein, on veut des nouvelles infrastructures. Tout ça, c'est aux frais de l'État. Là. Alors, ils sont hautement subventionnés. Plus on habite loin du centre, plus on est subventionné.
Et donc, plus on densifie commercialement le centre-ville, plus on densifie touristiquement le centre-ville, plus on accentue, dans le fond, l'étalement urbain. Alors, à la limite, ça donne l'impression.
Ça tue la vie dans le quartier latin. Là. Les services, ils ont de la difficulté. Il n'y a plus de marché, là. Ces gens-là, où est-ce qu'ils vont faire leur épicerie? On les force à aller faire leur épicerie ailleurs.
Exactement.
Il y a quelques dépanneurs qui ont remonté leur prix parce qu'il y a un monopole.
Et on est en route justement vers la campagne électorale et peut-être là-dessus, justement, de quelle manière on pourrait développer, quelle piste on pourrait donner à d'éventuels élus, dans le fond, pour réussir à densifier humainement le centre-ville et réussir à relancer peut-être aussi les centres-villes, entre guillemets, des autres arrondissements?
Quel moyen prendre? Il faut des projets imaginatifs. C'est pas l'espace qui manque. Moi, j'en ai un projet, moi, si vous en voulez un. Moi je ferais un espace. Aux dernières élections, on parlait d'un quartier vert. On a parlé d'un quartier vert. Puis tout le monde mettait leur quartier vert au Yab au vert. Ils mettaient ça près de l'aéroport.
Oui, c'est en banlieue.
Loin.
C'est vraiment banlieue.
Ben, c'est pas vert, ça va être dépendant de l'automobile. Moi, j'ai dit, pourquoi pas faire de la citadelle un quartier vert?
Ah, hein? Pourquoi pas?
On pourrait mettre 1000 personnes là-dedans. Puis l'armée, qu'est-ce qu'elle fait là? Tu sais, qu'est-ce qu'elle fait là? Je veux dire, c'est complètement inutile. C'est penser au point de vue stratégique, la citadelle, c'est rien que symbolique, ça. Là.
Absolument.
Alors,
il n'y a pas de densification.
Alors, ça pourrait être accessible au tourisme. Parlons-en du tourisme. Tout à coup, tu sais, on pourrait aller se promener ouvertement à la citadelle. Ça pourrait être un quartier sans automobile.
Mm-hmm.
Où est-ce que c'est que... Puis moi, je mettrais du logement social là-dedans. Pourquoi du logement social? Parce que c'est la seule façon d'avoir des enfants au centre-ville. Si on enlève le logement social, il n'y a plus d'enfants dans le Faubourg Saint-Jean.
Mm-hmm.
Alors, le logement social a un rôle non seulement là, de jouer le rôle des HLM, c'est aussi le rôle de faire en sorte que la ville soit équilibrée avec des enfants. Parce que je regarde dans Saint-Jean-Baptiste, avec les condos...
Mm.
Les condos, c'est tous des impuissants qu'il y a là-dedans. Là.
Moi, je pense, un autre projet, je pense aussi...
Il n'y a pas d'enfants là-dedans.
Dans Limoilou, ça serait vraiment de... Je pense qu'il faut vraiment penser à un réaménagement de la vocation d'Henri Bourassa. Henri Bourassa, tu sais, entre l'autoroute de la capitale puis qui va vers le centre-ville. Là. Alors, il y a un potentiel, dans le fond, de densification, effectivement, de construction résidentielle le long d'Henri Bourassa, à condition qu'on réoriente la vocation de ce boulevard-là, qu'on en fasse carrément un boulevard urbain, ce qui n'est pas le cas présentement. Donc, et ça voudrait dire réduire le nombre de voies. Présentement, ce secteur-là, il y a 6 voies. Et je comparais ça, il n'y a pas d'autre, alors que il y a dans la ville, il n'y a pas d'autre boulevard aussi large que celui d'Henri Bourassa. Donc, il faut vraiment en faire un boulevard urbain, réduire la largeur. Il faut aussi, effectivement, on sait qu'Hydro-Québec pense peut-être déplacer, on sait que dans Saint-Roch, il y a une espèce de relais,
un centre électrique
là, en plein. Donc, ils vont le démolir, là, ça, la décision est prise. Alors, nous, on voudrait bien que ça s'éloigne le plus possible du centre-ville, le relais, ce qui permettrait peut-être de repenser un peu les... Parce qu'il y a une voie, il y a une ligne de haute tension hein, qui passe le long d'Henri Bourassa. Alors, peut-être qu'on pourrait réaménager cette ligne de haute tension-là, soit la faire passer sous terre. Mm-hmm. Ou alors, il y aurait peut-être là aussi une autre façon de gagner de l'espace et de permettre vraiment qu'on fasse d'Henri Bourassa un boulevard urbain et qui fait en sorte aussi qu'il n'y a plus de camions lourds qui passent sur ce boulevard-là. Alors, donc ça serait vraiment un moyen, par exemple, de rapprocher le secteur Méseret de Limoilou, parce que finalement, Méseret fait partie de Limoilou, mais des fois, on a le sentiment que c'est des quartiers, tu sais, que ça fait pas partie du même ensemble. Mais ça fait partie du même ensemble, sauf qu'Henri Bourassa est une espèce de cassure, de plaie, de cancer en plein cœur de Limoilou, qu'il faudrait absolument faire disparaître, et qui date d'une autre époque, qui date de la même époque que les erreurs qui ont été commises dans le centre-ville ou qui ont été commises, tu sais, dans le fond, là, à Québec, là.
Les déplacements entre les quartiers autres que ceux du centre-ville proche, là, je parle de Ville-Vanier, Saint-Sauveur, Limoilou, Méseret, sont très difficiles de l'un à l'autre. Il faut aller vers le centre-ville, il faut revenir. Même en automobile, c'est difficile.
Oui, ça même.
Passer de Ville-Vanier, c'est assez isolé, finalement, pour un piéton, là.
Oui, ça, c'est effectivement.
Pour un piéton. Il y a le boulevard Laurentien qui rentre, là, à partir de la rivière Saint-Charles, qui pourrait devenir urbain à partir de la rivière Saint-Charles.
Absolument. Oui.
Jusqu'à la rue des Commissaires ou la rue, en tout cas, je sais pas le nom des rues, là, près de la rue Prince-Édouard, là, dans ce coin-là. Ça devrait être un boulevard urbain, ça, près du stade municipal, entre autres, là. Pour se rendre au stade municipal.
Puis naturellement, il faut absolument qu'il y ait il faut l'incinérateur, là. On sait qu'on doit le fermer dans 20 ans, là. Donc, il faut avoir un plan de fermeture de l'incinérateur. Il y a 4 fours là-dedans. Donc, à tous les 5 ans, il faut fermer absolument un four pour être sûr que dans 20 ans, on n'ait plus ce cancer-là et qu'on fasse de l'incinérateur un écomusée, tu sais, pour montrer comment, comme citoyen, on était irresponsable avec, dans le fond, le traitement de nos déchets.
J'ai envie de se poser la question, face au développement industriel. On parle notamment de développement portuaire dans le secteur Limoilou-Beauport. On parle de densification industrielle à certains égards. Alors, quel regard on porte sur ce dossier-là? Est-ce que, encore une fois, peut-être on est sur une piste qui est intéressante ou au contraire, il y aurait des erreurs et une éventuelle prochaine administration pourrait apporter justement correctif face aux manières de faire et face aux manières de planifier?
Bien, écoutez, pour nous, les citoyens, est-ce que les citoyens de Limoilou qui vivons dans le secteur Méseret, entre autres, mais même pour ça a même des impacts pour les citoyens des autres secteurs de Limoilou, c'est que la ville, parce qu'il y a présentement des projets de développement. Bon, le port de Québec veut s'agrandir, hein, il dit qu'il manque d'espace, là, et nous, on est conscients qu'il y a un manque d'espace parce qu'ils ont permis à un récupérateur de métal qui est très présent au port de Québec, là, de se développer à proximité d'une zone résidentielle. Et nous, ça nous a, d'ailleurs, c'est ce qui a amené la formation du comité de citoyens, parce que depuis ce temps-là, notre qualité de vie s'est détériorée énormément. Parce qu'on a permis à ce fer arrière-là, dans le fond, de s'installer proche de résidence et ça brasse du métal, tu sais, du matin au soir et ça amène aussi énormément de camionnage. Alors, ça, c'est. Et là, on nous dit, le port de Québec dit, bien là, nous, on manque d'espace, on veut en développer. Donc, là, nous, ce qu'on voit comme conséquence, c'est que ça veut donc dire qu'il y aura augmentation, tu sais, du camionnage lourd, tu sais, sur Henri Bourassa. Donc, encore là, moins de qualité de vie pour nous, les citoyens. La Ville de Québec parle de. On sait qu'ils veulent développer le compostage. Et là, on nous dit que la Ville de Québec a un projet de centre de compostage qui serait là aussi installé dans la zone industrielle. Ça veut dire que tous les camions à ordures qui vont présentement à l'incinérateur, non seulement ils iraient à l'incinérateur, mais là, ils reviendraient dans le secteur, tu sais, sur Henri Bourassa pour aller vers le port de Québec. Donc là, tous les camions, les bennes de vidange, là, passeraient donc à proximité de des résidences, dans le fond, des gens de Limoilou. Donc, nous, on a énormément d'inquiétudes parce que on a l'impression que là, il y a des projets de développement et que, dans le fond, on n'a aucune préoccupation, dans le fond, de concilier le développement industriel, tu sais, avec la qualité de vie des citoyens. Ça ne peut pas se concilier. Présentement, là, il y a un côté irréconciliable et il faut peut-être repenser. Faut-tu continuer à développer le port de Québec? Parce que quelqu'un me disait récemment, il y a d'autres ports au Québec, là. Comment se fait-il qu'au niveau fédéral, par exemple, chaque port est géré de façon autonome? Ils sont en compétition les uns les autres. Alors, il y a des ports qui vont très mal, Kakuna, tu sais, qui est peu développé, qui est un port en eau profonde, tu sais, alors qu'il y aurait un potentiel de développement énorme. Tu sais. Mm-hmm. Puis là, tu as le port de Québec. Alors, pourquoi, dans le fond, plutôt que de développer le port de Québec, on ne va pas développer le port de Kakuna? Et là, on fait du transport par... comment on appelle ça? Par...
péniche.
Par péniche, c'est ça. Voilà, on pourrait transporter la marchandise par péniche. Donc, là, on sort des camions des routes, on utilise le fleuve qui est sous-utilisé, tu sais. Alors, il faudrait peut-être repenser aussi, tu sais, quand on pense développement industriel, faudrait penser peut-être plus global. Et le port de Québec, il a peut-être atteint sa maturité de vie, là, et c'est peut-être d'autres secteurs qu'il faut développer plutôt que développer le port de Québec.
Et en parallèle, face au développement industriel, donc on dit on développe autour du port l'industrie, est-ce qu'il y aurait d'autres endroits, est-ce qu'il y aurait d'autres manières justement de planifier la ville en incluant aussi une densification industrielle ou le développement de nouveaux axes industriels, de nouvelles zones de ce type-là?
Moi, je pense que l'industrie puis le centre-ville, il y a quelque chose d'incompatible. La grosse industrie et le centre-ville, c'est pas fait pour aller ensemble. L'industrie en centre-ville, ça devient, on s'en va vers l'artisanat. Il faut la décomposer, il faut la fragmenter pour qu'elle soit, pour que la ville puisse l'avaler. Mm-hmm. Parce que c'est ça que je vois. Moi, je regarde dans le Faubourg Saint-Jean, dans les derniers 50 ans, il y avait plusieurs petites industries dans le Faubourg qui étaient tout à fait compatibles avec le résidentiel autour, puis ça créait des emplois. Il y avait toute une économie à l'intérieur du Faubourg. Il y avait en dehors de la rue Saint-Jean, il y avait 150 petites entreprises, artisans, commerces et petites industries qui étaient éparpillées dans la ville, dans le tissu urbain. Aujourd'hui, il en reste 30. Alors, par contre, la rue Saint-Jean, elle, s'est densifiée, puis on a exclu le résidentiel de la rue Saint-Jean. C'est comme si on veut pas, tu sais, pour que le résidentiel puisse accepter une industrie, il faut que l'industrie soit de petits gabarits. Alors, il y a quelque chose qui marche pas avec la Daishawa et le centre-ville. Il y a une incompatibilité, je pense. Moi, j'aimerais ça passer un commentaire, si je sais pas si j'ai le temps, mais c'est sur les élections qui s'en viennent. Je pense que avant qu'on finisse, ce serait important qu'on en parle, parce qu'il y a un problème d'opposition, là. Il y a un problème d'opposition certaine. Et puis, je pense que il y a un risque, il y a quelque chose, ça peut paraître risqué au départ que l'opposition semble s'écrouler, l'opposition parlementaire, mais il y a quand même une opposition extra-parlementaire. Je crois que l'opposition va retourner entre les mains des citoyens, en dehors de l'enceinte qui s'appelle le Conseil de ville. Et puis, de toute façon, monsieur Labeaume a un respect plus ou moins fort envers la démocratie, parce qu'il y a quand même, aujourd'hui, c'est rendu que nos conseillers municipaux représentent des énormes entités. Autrefois, on avait un conseiller municipal dans le Faubourg Saint-Jean, c'est fini. Ça, maintenant, c'est Saint-Roch, Saint-Sauveur, presque tout le centre-ville. Le centre-ville a perdu un arrondissement. Sur les 7 arrondissements de Québec, je pense qu'il y en a 6 qui sont de la banlieue, puis il y en a un seul du centre-ville. Pourtant, il y a le tiers de la population au centre-ville. Il y a quelque chose qui ne marche pas, là.
Limoilou a perdu son, tu sais, a perdu
son. Limoilou a perdu
son arrondissement, ça a perdu deux districts.
Parce qu'il y a quelque chose dans la popularité de Labeaume, moi, qui me chicote, c'est qu'on dirait qu'il a fait la guerre au centre-ville, c'est ça qui le rend populaire, parce que depuis les fusions, c'est sûr que les banlieues ont un avantage démographique sur le centre-ville. Mais il faut faire bien attention à jouer ce jeu-là. Je pense à ce qui s'est passé avec Red Bull dans le Vieux-Québec, quand les citoyens se sont plaints. Ben, Labeaume, il a pris la part des banlieusards qui vont s'amuser en ville, mais son rôle, c'est de défendre les citoyens, même s'ils sont peu nombreux, sur un phénomène qui est plus large. C'est la même chose à Rabaska. À Rabaska, il y a les gens du coin de Rabaska où ça va se passer.
Les premiers touchés, hein?
Les premiers touchés. Eux autres, on les tasse. Pourquoi? Parce que l'ensemble de Lévis, qui est rendu à 150 000 personnes, c'est grand Lévis, ça s'en va jusqu'à Saint-Nicolas à l'autre bout. Eux autres, ils veulent évidemment des jobs, ils veulent la prospérité, supposément que Rabaska va nous amener. Supposé. Alors, ça marche pas. C'est du populisme que de se servir d'une majorité pour tasser une minorité qui est concernée par un problème. Quand un problème concerne les minorités, c'est elle qui doit décider. Puis je pense que le rôle du maire dans la question de Red Bull, c'était pas d'aller boire du Red Bull pendant le conseil de ville, c'était de protéger les citoyens de la côte de la montagne.
Mmh. Oui, moi je pense que ce qui est inquiétant là, pour les prochaines élections, effectivement, c'est qu'on a l'impression qu'on s'en va vers un couronnement, hein, dans le fond de M. Labeaume, tu sais, alors que finalement, parce que M. Labeaume en fait profite un peu de tous les projets, dans le fond, qui avaient été mis de l'avant, de la vision, dans le fond, qui avait été mis de l'avant par le RP et le RMQ en termes de vision, effectivement, du centre-ville, tu sais. Alors, Labeaume a profité un peu de ça, mais sauf que sa vision à lui de la ville, parce que là, présentement, on a à choisir de quelle vision on veut de la ville de Québec. Moi, je pense qu'il faut aller vers une ville verte. Et pour aller vers une ville verte, là, il faut avoir des engagements très clairs en faveur d'un tramway. Il faut avoir des engagements très clairs, dans le fond, pour dire fini, dans le fond, le développement industriel qui nuit à la qualité de vie. Pensons à une densification de la population dans des secteurs où c'est possible de le faire. Donc, il faut avoir, tu sais, c'est quoi la vision? Moi, je pense qu'il faut d'abord dire quelle est la vision de Québec? Est-ce que c'est seulement une vision d'une ville touristique pour les hommes d'affaires, tu sais, puis une ville de festival. Moi, j'ai rien contre les festivals, mais là, je commence à en avoir marre, là, des festivals, là, parce que, tu sais, un attend pas l'autre, là. Mais c'est tout ça, Québec?
Quand on enlève les citoyens, on enlève ce qui anime la ville. Quand c'est les citoyens qui animent la ville, on n'a pas besoin de faire des festivals à tout bout de champ, puis du carnaval, puis des Red Bull Crash Ice pour animer une ville. C'est les citoyens eux-mêmes qui l'animent, puis c'est ça que les touristes aiment. Il faut faire bien attention, parce que les touristes, actuellement, Québec est animé de façon artificielle.
Alors ça, c'est inquiétant, effectivement, comme tu dis, dans le fond. Donc, faut vraiment redonner, effectivement, au centre-ville une qualité de vie, redonner, effectivement, permettre le développement de services de proximité. Et pour ça, ça prend, effectivement, une vision, là, à long terme, pas seulement une vision à court terme, une vision de rentable, non comptable non plus, là.
Puis l'opposition, s'il n'est pas parlementaire, il faut que c'est extra-parlementaire. Puis il faut faire attention. Les comités de citoyens, il y a une grosse différence avec l'époque La Montagne, c'est que à l'époque La Montagne, il y avait peur des comités de citoyens. Mm-hmm. On avait peur du comité de citoyens de l'Erdis à Saint-Roch, puis à chaque fois qu'il sortait une conférence de presse, le maire répondait tout de suite. Aujourd'hui, on les ignore. Mm. On ignore les citoyens.
Ouais.
Alors,
c'est la plus grande inquiétude. Ouais, effectivement, que les citoyens sont en train de perdre du pouvoir, effectivement.
Oui.
Alors bon, on lance cette préoccupation, on lance aussi les autres préoccupations qu'on a partagées au fil des dernières minutes, des dernières dizaines de minutes. En fait, je pense qu'on a beaucoup de nourriture pour la pensée, comme on pourrait dire. Alors, Marc Boutin, donc géographe, collaborateur au journal Droit de parole, merci beaucoup.
Ça me fait plaisir.
Jean-Yves Desgagnés, porte-parole du collectif des éco-citoyens et éco-citoyennes, merci.
Merci.
Raymond Poirier, toujours avec vous ce matin, et après avoir parlé de planification urbaine en lien avec l'environnement dans le centre-ville, dans la première couronne, après avoir regardé aussi la question des boisés urbains, on va s'intéresser, pour terminer cette première journée de cette semaine thématique en route vers les élections municipales de novembre prochain, et on va s'intéresser à la gestion des eaux, à la gestion en bassin, puisque on a tout le circuit de la Saint-Charles, le lac Saint-Charles notamment, où on va puiser notre eau. Alors, comment on regarde un peu la situation là-bas. Quels sont les impacts aussi de l'étalement urbain sur l'environnement? Alors, pour en discuter avec nous ce matin, je suis en compagnie de Mélanie Deslongchamps, qui est directrice générale de l'appel de l'Association pour la protection de l'environnement du lac Saint-Charles. Bonjour.
Bonjour.
Alors, si on commence par un état des lieux en matière de gestion des eaux à Québec, quelles sont les initiatives qui sont mises de l'avant? Est-ce que ce qui est fait est suffisant pour répondre aux besoins actuels?
Il y a beaucoup d'initiatives qui sont faites par plusieurs groupes, là, plusieurs organismes qu'on parle, du comité de valorisation de la rivière Beauport sur la rivière Beauport. Il y a aussi un conseil de bassin sur la Cap-Rouge. Il y a beaucoup de groupes qui existent un peu partout sur le territoire. La Saint-Charles en regorge aussi. Et oui, il y a beaucoup d'initiatives, mais c'est toujours une question d'argent quand on a, ou encore d'implication là, des municipalités dans le travail. Donc oui, il y a encore place à l'amélioration puis à faire encore plus, là.
Et quand on parle d'étalement urbain, la ville qui s'étend de plus en plus, de nouvelles banlieues qui se créent, est-ce que tout ça, est-ce que ce développement-là a un impact sur le bassin de la Saint-Charles?
Ah, c'est sûr que quand on regarde le territoire, surtout le haut bassin, là, à partir de la prise d'eau de la ville de Québec, il y a plusieurs municipalités, il n'y a pas seulement la ville de Québec. Quand on regarde le bas bassin, c'est plus la ville de Québec qui gère son développement. Mais quand on regarde le haut bassin, on a plusieurs municipalités dans le bassin versant. On a Lac Beauport, Tonnam, Lac de Lâche, Saint-Gabriel de Valcartier, Wendake. Donc, c'est un ensemble de municipalités qui développent chacun à leur manière. Puis, on additionne tous ces développements-là avec celui de la ville de Québec. Puis, on a de plus en plus de développement puis de personnes sur le territoire. Puis, quand on parle de développement, que souvent, le premier impact, c'est l'imperméabilisation des sols et le fait que l'eau se rend plus rapidement dans les cours d'eau et que là, on a des gros problèmes, soit d'inondation ou d'érosion là, des rives.
Donc, une situation qui est préoccupante dans la mesure où les villes ne se parlent pas nécessairement suffisamment dans leur plan de développement, dans leur plan d'urbanisme?
Mais en fait, oui, il y a cette problématique-là dans le sens que chaque municipalité développe selon la demande en fait du territoire et aussi ses préoccupations à elle selon les capacités de son réseau d'égouts, de son réseau d'aqueduc. Par contre, souvent, le problème, c'est que en bout de ligne, toute l'eau du territoire se ramasse dans le même bassin versant, c'est-à-dire celui de la Saint-Charles. Donc, c'est là qu'on doit négocier avec les municipalités pour voir à améliorer la situation puis voir le développement autrement aussi.
Et si, justement, on regarde des manières de voir le développement autrement, Mélanie Deslongchamps, est-ce qu'il y aurait une manière idéale? Comment on devrait, justement, planifier le développement urbain pour avoir l'impact le moins nocif possible, justement, pour le bassin de la Saint-Charles?
Bon, en fait, c'est sûr que de voir à regarder les secteurs où, en fait, maximiser les réseaux d'égouts parce que présentement, on a beaucoup de secteurs qui sont même pas reliés au réseau d'égouts. Donc, on fait des installations septiques pour des maisons isolées, mais dans des développements résidentiels. Normalement, quand on utilise une installation septique, ça, le règlement dit que c'est pour une résidence isolée, mais on n'a plus ce réflexe-là, puis on se dit, il n'y a pas de problème, on développe avec ça, sauf que ça laisse passer le phosphore presque à 100% à une installation septique. Donc, nous, ce qu'on demande, entre autres, c'est de maximiser les réseaux d'égouts. Mm-hmm. Qui fait que à ce moment-là, au moins, les rejets en phosphore, qui est un des principaux... en fait, c'est l'élément limitatif pour les cyanobactéries, là, pour l'apparition des cyanobactéries. Donc, nous, une des choses qu'on demande, c'est de maximiser les réseaux et puis aussi de voir à regarder les secteurs les plus propices au développement. Donc, éliminer les montagnes avec des fortes pentes, éliminer les milieux humides, donc de pas aller dans les secteurs où on a des milieux humides pour les remblayer puis les imperméabiliser parce que c'est des bassins de rétention en soi, les milieux humides. Puis, ça a l'air bizarre à dire, mais c'est encore vrai qu'on les remblait, là. Donc, c'est une autre chose qu'on demande. Il y a plusieurs éléments qui peuvent être regardés avant même, dans le fond, de développer. Donc, c'est ça qu'on demande, une meilleure planification en soi, là.
Et justement, quand on parle des cyanobactéries, par exemple, des algues bleues, bon, médiatiquement, on en parle moins, mais est-ce que le problème, il est toujours présent ou il a été à tout le moins en partie réglé?
Oh non, les cyanobactéries, c'est pas réglé, puis ça se réglera pas en l'espace de 2-3 ans. Là. Donc, la première apparition est en 2006 au lac Saint-Charles, et puis en 2007, c'était recouvert. En 2006, c'était un secteur. En 2007, c'était presque l'ensemble du lac qui a été affecté. En 2008, un peu moins en raison de la pluie, puis cette année, c'est un peu ça aussi. Mais on a quand même vu une première apparition plus tôt que jamais cette année, à la fin juin. Les autres années, c'était autour de la fin août. Et cette année, ça a été très tôt. Donc, non, c'est pas à veille de disparaître. Si on fait tout ce qu'on a à faire, peut-être dans 20-25 ans, on va peut-être les voir disparaître, mais pour les 20 prochaines années, on peut s'assurer qu'il va en avoir.
Et j'imagine, quand on parle aussi de la gestion de l'eau douce, il y a toujours danger d'une dérive, parce que je regarde, par exemple, la Saint-Augustin-des-Morts, il y a le lac Saint-Augustin qui est cliniquement mort ou presque. Alors, est-ce qu'il y a toujours des dangers aussi d'avoir des dérives similaires dans d'autres lacs et à la limite même au lac Saint-Charles?
Ben, en fait, il faut vraiment avoir conscience qu'on a un impact humain, puis qu'il faut faire partout sur le territoire, faut faire un effort. C'est pas seulement le riverain qui doit renaturaliser sa rive, c'est partout sur le territoire qu'on doit arrêter de mettre de l'engrais. Puis c'est pas encore compris des gens là. Et puis oui, ben je parle pas nécessairement que le lac Saint-Charles va mourir dans 20 ans là, sauf que si personne fait d'effort, assez court terme, le lac il va se transformer en dans des certains secteurs, ça va être des milieux humides au lieu d'être un lac. Donc, il va diminuer de superficie, il va vieillir prématurément parce que n'importe quel lac se transforme éventuellement en marais. Mais c'est sûr que si on n'y fait pas attention, puis qu'on continue de l'engraisser, puis qu'on continue à développer dans ce territoire, ben c'est ce qui arrive avec n'importe quel lac. On a un vieillissement prématuré.
Et comme vous le dites, c'est un problème pour les riverains. C'est une situation bien tangible pour ceux qui habitent dans ces secteurs-là. Mais ici à Québec, on a un impact aussi. Sur tout le territoire, dans le fond, on a un impact sur ce qui se passe au lac Saint-Charles.
Ah ben pour le lac Saint-Charles, juste le fait que les gens utilisent beaucoup d'eau, on parle de plus de 400 litres par jour par résidence. Là, donc, si on diminue notre prise d'eau quotidienne, on diminue la pression sur le lac Saint-Charles. Chaque personne qui diminue sa quantité d'eau prélevée, ça fait qu'il y a plus d'eau dans le lac Saint-Charles, là, quelque part. Oui, chacun a un impact là, dans ce sens-là.
Et face à tout ça, au fil de la campagne électorale, que ce soit à Québec, mais aussi dans la grande région de Québec, quels seraient les thèmes, quels seraient des engagements que vous aimeriez entendre de la part des élus des différentes villes de la région?
Ben, en fait, nous, une des choses qu'on demande l'appel, c'est vraiment de voir à faire ensemble avec les municipalités du territoire un statut particulier de protection pour le lac Saint-Charles puis son bassin versant. En fait, on ne demande pas d'arrêt complet de tout développement. Tout ce qu'on veut, c'est s'asseoir ensemble puis regarder qu'est-ce qui se passe sur le territoire, faire une planification d'ensemble puis décider des mesures particulières parce qu'on n'est pas tout le temps dans une prise d'eau potable pour on parle de 250 000 personnes qui boivent l'eau du bassin versant. Donc, on demande à ce qu'il y ait des mesures particulières au niveau du développement, mais aussi de la responsabilité de chaque individu qui reste dans le bassin versant. C'est ce qu'on demande à tous les municipalités, là, autant à Québec qu'à Lac-Beauport ou Castonam ou qu'à Lac-de-Lage.
Donc, qu'il y ait plus de discussions que ce qu'il y a présentement.
Oui, exact.
Et est-ce qu'il s'agirait peut-être à terme aussi de développer des délimitations au niveau de la consommation d'eau ou c'est un terrain sur lequel on dit, ben regardez, faut quand même laisser libre choix aux gens, mais les inciter fortement à agir intelligemment?
Non, mais ça, c'est sûr qu'il y a des campagnes qui ont commencé, beaucoup de campagnes qui ont commencé, mais qui vont se poursuivre là, dans les prochaines années pour faire comprendre que c'est pas illimité nécessairement l'eau du lac Saint-Charles. Il y a une capacité, puis que si tout le monde décide de remplir sa piscine le même week-end, ça se peut qu'il manque d'eau à Québec. Donc, c'est aussi ça là qu'il faut sensibiliser. Je pense que ça commence par la sensibilisation. À long terme, ben on verra s'il faut absolument... faire des règlements ou quoi que ce soit, mais juste de voir le lac Saint-Charles dans un état où que l'eau a diminué, je pense que pour les gens, ça serait important de le voir aussi.
Ah ben, des éléments à garder en tête. Mélanie Deslongchamps, directrice générale de l'Association pour la protection de l'environnement du lac Saint-Charles, merci beaucoup.
Merci à vous.
Bonne fin de journée.
Au revoir.
Ah ben voilà, plusieurs réflexions à avoir en tête justement en se disant, ben regardez ce qui se passe là-bas. Comme Mme Deslongchamps le dit, ça a un impact ici, c'est l'eau de la Ville de Québec, de l'ensemble de la Ville de Québec. Alors, des éléments qu'on vous a lancés, bon, sur ce dossier-là, sur d'autres dossiers également ce matin, question d'étalement urbain, question de densification à l'échelle humaine, question de protection des forêts urbaines, des manières de voir le développement de la ville, peut-être un développement de la ville justement en lien avec l'humain, en lien avec l'environnement, un développement qui serait plus harmonieux. Peut-être au profit de tous plutôt qu'au profit de certains. Donc, on vous lance ces réflexions-là à la maison. Vous les récupérez de votre côté. C'est là pour la discussion, justement, pour animer peut-être des débats et peut-être, on l'espère, pour animer des débats qui auront lieu lors de la campagne électorale entre des élus, entre des futurs élus candidats comme conseillers municipaux, candidats également à la mairie de Québec.